où nous avions enregistré son témoignage dans un petit appartement du quai de Southampton. C'était l'année de terminale. Je faisais équipe avec Vanessa, qui avait les cheveux roses, une fossette au menton, un sublime perfecto vintage dont j'avais très envie, et cet entretien audio constituait l'essentiel du projet de création que nous présentions au bac. Jacqueline nous reçoit dans sa cuisine en formica jaune pâle. C'est une femme de 73 ans, petite et mince, vêtue d'un pantalon karting, framboise écrasée et d'un chandail assorti. Un genre de Jane Fonda, période aérobique, brushing argenté et ongles faits. Elle nous observe, son chat dans les bras, tandis que nous nous affairons sur le micro après avoir déposé au centre de la table le magnétophone à cassette. Vanessa enclenche la bande pour le top départ. Je me racle la gorge et, tout en modulant ma voix de manière à singer la journaliste professionnelle que j'aimerais un jour devenir, je commence. Bonjour Jacqueline. Vous êtes née au Havre en 1922. Vous aviez 21 ans lors des bombardements de septembre 1944 et vous viviez rue Victor Hugo. Pourriez-vous nous raconter ces journées terribles ? Jacqueline nous regarde l'une et l'autre, elle nous jauge, allume une cigarette, inhale longuement, puis commence à parler. Elle ne va pas en faire des tartines, elle nous prévient. Ce qu'elle veut transmettre, si toutefois cela est possible, c'est son expérience de la destruction. Et à ces mots, nos visages se figent. Vanessa et moi, surprises par la fermeté de son ton, qui augure de la fermeté de ses souvenirs. Car, de fait, elle n'a rien oublié de ce 5 septembre.
Ça commence un mardi. C'est la fin de l'après-midi. Le Havre est alors une enclave, une poche stratégique à cause du port. Il faut s'imaginer un camp retranché. On est environ 60 000 civils là-dedans, avec une garnison de 11 000 Allemands qui ne veut pas se rendre. La rumeur se répand que les Alliés sont déjà dans les faubourgs de la ville, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas d'eau, la quasi-totalité des magasins est fermée. L'ordre d'évacuation n'a pas été bien suivi, je ne sais plus pourquoi, mais plus personne n'entre ni ne sort. On nous dit que nous sommes pris en otage par l'occupant. On attend. On sait que ça va arriver. Tout est calme. Depuis le débarquement de juin, il n'y a plus de sirènes. Le qui-vive est permanent, alors on est prêt. Il paraît que la cloche du fort de Sainte-Adresse tenue par les Allemands a sonné l'alerte vers 17h30. Je ne l'ai pas entendue. Mais une demi-heure plus tard, des dizaines de lumières rouges sont apparues dans le ciel, des fusées éclairantes qui balisaient la zone. On a compris tout de suite. On savait ce que ça voulait dire. Le bourdonnement s'est intensifié et quand on a levé la tête, il y avait des centaines de petites croix noires. On est vite descendu dans l'abri. On était une dizaine là-dedans, des voisins, des gens qui avaient fait partir leur famille mais étaient restés pour garder les appartements par peur des cambriolages. Certains étaient descendus avec des valises emplies de papier, de petits objets, d'un peu de nourriture aussi, du vin, de quoi tenir. C'était un abri sécurisé. Je me souviens d'une femme qui allaitait son bébé en chantant. Il y a une pie dans le poirier, j'entends la pie qui chante. Il y a une pie dans le poirier, j'entends la pie chanter. Elle me rendait folle avec sa ritournelle. Les explosions ébranlaient les murs de la cave. On commençait à suffoquer. Et je me demandais plutôt où étaient passés les oiseaux, les mouettes de la rade et les mésanges du square Saint-Roch durant ce partage du ciel avec les avions et les bombes au phosphore.
Tout en fumant la petite cigarette qu'elle tient, le poignet cassé vers l'oreille, Jacqueline s'attache à nous décrire les explosions et les ondes de choc qui les prolongeaient encore. Le silence revenu ne faisant que souligner l'imminence de la bombe suivante qui ne tardait jamais. Elle insiste sur le temps passé dans cet abri, cette durée composée de chocs et d'intervalles entre eux, ponctués n'importe comment. Ces heures passées à attendre la prochaine déflagration, un temps arythmique, étranger aux horloges humaines. La jeune maman fredonnant sa chanson en boucle tandis que la cave se remplissait de débris.
J'avais du mal à respirer. J'avais peur d'être ensevelie, de mourir enterrée vivante. J'étais seule au Havre. Ma famille était partie une semaine avant chez un oncle dans une ferme près de Bolbec. J'étais restée à cause de mon copain qui était dans la défense passive. J'étais amoureuse, Je savais qu'il était dehors, là-haut, à courir partout. Qui l'aurait su où me trouver si jamais je restais piégée dans la cave? Puis le silence s'est reformé, comme s'il avait fini par expulser tous ses projectiles. Et c'est fou, mais on n'est pas sorti tout de suite. On a attendu, on s'interrogeait du regard. On se demandait si tous les avions étaient bien partis, ou si un dernier appareil, en queue de formation, lambin mais zélé, et bien destiné à finir le travail, ne traînait pas encore au-dessus de la ville, prête à larguer une dernière fois. Peu à peu, nos cœurs et nos poumons ont repris un fonctionnement normal. Le bébé s'est endormi, on s'entendait de nouveau respirer, c'était l'accalmie. Alors quelqu'un a dit « C'est bon, on y va, on peut y aller, ça fait 3 heures qu'on est là-dessous. » Et il a fallu s'extirper de ce trou, se remettre en branle, et on est remonté en file indienne, au ralenti, les uns derrière les autres. On s'empêchait de penser à ce qui nous attendait là-haut, à la surface. On était recouverts de gravats, les cheveux, la peau, les vêtements, pleins de cendres et de poussière. On était des revenants. On a ignoré jusqu'à la dernière marche que l'escalier de la cave était l'ultime élément d'architecture encore debout dans le secteur. Alors, on a senti le ciel que l'on ne voyait pas. L'air de la mer tout de même plus frais que celui de la cave. On était dehors. On s'est traîné dans les décombres. On a contourné les excavations, les cratères de bombes où l'eau s'infiltrait déjà, enjambé les poteaux effondrés et les égouts crevés, les poutres calcinées. On faisait attention où on mettait les pieds, car le sol lui-même avait disparu. Moi, je ne voyais rien. Ça fumait partout et j'avais des saletés dans les yeux, les cils collés. De toute façon, il n'y avait plus rien à voir. Ça fait drôle. On descend, il y a une ville, on remonte 3 heures après et il n'y a plus rien.
On coupe juste après ça, on passe au salon. Jacqueline s'enfonce dans un curieux sofa en sky blanc. Il y a un tabouret africain et de grandes photos d'oiseaux d'une beauté surréaliste encadrées au mur. Martin Pêcheur, Harfang des neiges, messager sagittaire, toucan, faisan doré, mais pas de pivoleuse. Elle nous désigne de la tête les bières et les biscuits. Elle a l'air fatiguée. Elle allume une autre cigarette, allonge les jambes et croise les chevilles, ferme les yeux. La pièce est emplie de tumulte. Nous sommes élus et silencieuses. Nous fumons, nous aussi, assises à ses pieds, sur un tapis de grosse laine écrue, trop étranglée pour picorer. Nous savons que ce n'est pas fini, mais ni Vanessa ni moi n'osons lui demander de nous raconter la suite, si elle a retrouvé son copain, malgré les bombardements des jours suivants, ceux du lendemain surtout. Et puis au bout de quelques secondes, c'est elle qui finalement nous dit, les yeux perdus dans la fumée de sa cigarette, son chat possessif ronronnant contre son ventre, qu'elle l'a cherché partout dans les ruines.
Il avait sûrement disparu dans une explosion. Sa famille ignorait mon existence. Je n'ai jamais su où il avait été enterré. On venait juste de se rencontrer.
Quand nous ressortons de chez Jacqueline, il fait nuit. Le quai de Southampton est désert. Nous marchons en silence sous les arcades de la rue de Paris. Les faisceaux des réverbères projettent les ombres sur les façades des immeubles. Ils auréolent le béton qui se colore rosé, bleuté, brun, émousse les angles, et sans doute que nous voyons en cet instant notre ville comme nous ne l'avons encore jamais vue. L'architecture nous dit quelque chose qui n'est pas la reconstruction, ni la renaissance, la réparation. Tout ce qui commence par « re », pour que reviennent les rêves perdus, non. Elle est la trace matérielle de ce qui a disparu. Elle nous rappelle que notre ville est hantée. Il y avait une autre ville avant. Voilà ce qu'elle nous raconte. Ces attaques aériennes, qui se prolongent jusqu'au 11 septembre, suffiront à faire du Havre une chose vidée de toute forme, une surface n'ayant pour seule continuité que sa destruction. Une croûte de gravats, et cela sans qu'il soit même possible de décider si l'on a affaire à des vestiges ou si l'on se trouve face à une matière nouvelle, une substance inédite que la guerre a créée. Corps plus ou moins compact de toits, de portes et d'escaliers, de murs aux fenêtres vides. Fusion de pignons et de poutres, de matelas et de chevaux, de photographies et de machines à coudre. Magma de faïence, de poussettes, de vélos et de pyjamas. Lave de transistors et de chiens, purée d'autobus, de casquettes et de banderoles. Pâte de choses humaines avec des morceaux d'humains dedans. Salmigondi de passé qui, une fois tassé, hausserait le niveau de la ville de près d'un mètre. On a dit qu'un mois après les bombardements, les décombres du Havre étaient encore chauds. Ainsi, au matin du 7 septembre, la rumeur est inimaginable. On voit la mer depuis la gare. Ceux qui répondent la nouvelle sont pris pour des fous. On les regarde de travers. On se dit qu'ils délirent, qu'ils sont traumatisés. Pourtant, c'est sûr qu'alors, la mer, on la voyait de loin.
Je crois que j'ai roulé à contresens. Je me retrouve perdu à vrai. J'ai plus une thune, j'ai plus d'essence. Un peu trop seul et trop navré. Putain, ça caille ce mois de septembre. Le ferry s'est déjà tiré. Rien à foutre, je regarde la mer descendre. Je vais fumer le ton car il papier. Tes mots encore au fond du bide. Je plante la Volvo dans le décor. La plage est un désert aride, où viennent s'échouer nos désaccords. Sous mes pieds, le sable défile, au loin la radio joue trop fort. Un de ces tubes tellement débiles, là toute une crie des mis à mort. Moitié à poil, ma colère gronde. J'ai un cri à la place du cœur. Marcher sur l'eau, se barrer à Londres pour échapper à ton odeur. Sous l'écume, ta silhouette s'estompe et ma bière a fini de couler. Tes hanches, tes fesses, tes seins me trompent. Je laisse la vague me dévorer.
Ici s'achève notre lecture. Ces quelques extraits ne présentent qu'une infime partie des souvenirs et sensations qui reviennent par vagues successives à l'esprit de la narratrice, comme l'annonce si bien le titre du roman choisi par Maëlys de Kerangal, Jour de ressac. Nous espérons vous avoir donné envie de découvrir l'ensemble du roman. Marie-France et Marie-Paul ont choisi et lu les textes que vous avez entendus. Claude Michel a assuré le montage de l'émission. En accompagnement musical, vous avez entendu des extraits de The Survivor Suite de Keith Jarrett, ainsi que du morceau Le Havre du chanteur Hussard. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G 101.5 FM.
Du matin, fatiguée, je cherchais mon chemin et je croise de chauds lapins, prêts à faire de moi leur petite putain. L'un d'eux m'attrape par les mains. Les autres le regardent, l'heure de rien. Je crie, je me débats enfin. Et mon petit cœur me dit que c'est la fin. Que vont-ils faire de moi? Qu'ai-je fait de mal? Que vont-ils faire de moi? Qu'ai-je fait de mal? Les diables n'ont pas de couleur. Lâche, ils sont venus à plusieurs. Je n'ai pas vu mes agresseurs. Je me souviens juste de leurs odeurs. Où tu te caches, espèce de lâche? Heures du matin, une jolie fille cherchait son chemin dans sa belle robe de satin. Elle m'excita, je n'y pouvais rien. J'ai vite appelé Martin. On allait la souiller avec nos vieux machins. Elle qui joue si bien la